Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue à tous qui êtes venus dans sa maison. Et j'aimerais faire avec vous trois lectures, s'il vous plaît. Trois lectures pour introduire le sujet de ce matin. Dans Ésaïe 61, Ésaïe prophétise la venue de Jésus-Christ. Ésaïe 61, versets 1 et 2. Ésaïe 61. Nous avons chanté « Ouvrez vos cœurs ». Le sont-ils ouverts, nos cœurs? Le sont-ils ouverts? Ésaïe 61, verset 1er, donc c'est Ésaïe qui parle de la part de Jésus. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, etc., etc. La bénédiction est pour ainsi dire infinie, mais je voudrais que nous retenions cette partie de cette prophétie pour publier une année de grâce et un jour de vengeance, ou dans d'autres versions, de la colère. La deuxième lecture, c'est dans Matthieu chapitre 3. L'Esprit du Seigneur est en train d'agir par le ministère de Jean-Baptiste. Vous connaissez cette affaire. Cet homme prêchait la repentance pour que les hommes puissent entrer dans le royaume de Dieu. Au verset 5, il est écrit ceci. Matthieu chapitre 3, verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, c'est-à-dire des gens très religieux, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. La cognée, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une grosse hache. Tout arbre bon qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Un petit peu plus loin dans l'évangile de Matthieu, il y a un autre texte, c'est Jésus qui parle cette fois-ci. Là, c'était Jean-Baptiste. C'est Jésus qui indique ce qui va se passer au jugement des nations. Matthieu chapitre 25, verset 31. Nous allons lire jusqu'à la fin du chapitre. C'est très important que nous comprenions comment les choses vont se passer. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, ou t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie, oui, et mais les justes à la vie éternelle. Amen. » Et c'est signé le Seigneur Jésus. C'est pas signé une dénomination quelconque qui voudrait enseigner telle ou telle chose, c'est signé le Seigneur Jésus. Quelle question adressée à des hommes religieux, à des pharisiens, à des sadducéens qui se gargarisaient d'être les mieux à l'époque, les plus religieux, qui en mettaient plein la vie aux autres pour montrer leur dévotion, leurs œuvres. Parce que ce texte-là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le dernier, ne nous parle pas du salut par les œuvres. C'est une grosse erreur de penser qu'on est sauvé par les œuvres. Mais ce texte enseigne que lorsque l'on est sauvé, on ne peut pas ne pas faire d'œuvres. Ce n'est pas possible. Et s'il y avait parmi nous des frères, des sœurs qui ne font rien pour Dieu, moi je vous le dis, je ne voudrais pas être à votre place. Parce que c'est la preuve que vous n'avez pas de communion avec Dieu. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui avait reçu une prophétie, je le dis pas pour le critiquer, mais surtout pour l'aider. Il y avait quelqu'un qui avait reçu une prophétie qu'il n'a pas donnée par rapport justement au cep et au sarment, qui fait que lorsqu'un cep est dans la racine, eh bien il peut porter du fruit. Quelqu'un ne l'a pas donné, mais ça vous servira peut-être d'encouragement à le faire. Une chose est sûre, quelqu'un qui a une véritable communion avec Dieu ne peut pas faire autrement. C'est pas possible. Il ne peut pas faire autrement que de faire quelque chose. C'est le résultat naturel. Un cep qui porte du fruit, un vrai cep en bonne santé, il porte du fruit. Vous êtes d'accord avec moi? On peut faire du cinéma, vous pouvez prendre un parapluie, attacher des grappes de raisin, ça ne fera pas de vous un cep. Moi, je vous le dis. Mais par exemple, si vous avez une communion réelle avec Dieu, vous produirez du fruit. Alors, il y a des questions dans la Bible, c'est sûr qu'elles ne font pas sauter de joie. Cette prédication ne vous fera pas sauter de joie, ça c'est sûr. Mais elle peut permettre à quelqu'un qui n'est pas sauvé d'obtenir le salut de son âme. Et je crois que tous les chrétiens n'ont pas envie de sauter de joie dans les églises. D'ailleurs, quand on a la joie, vous savez, on n'a pas envie de rire. Quand on a la joie, on n'a pas besoin d'autre chose. Mais je sais que ma responsabilité, c'est d'aider nos ados, vous qui venez peut-être pour la première fois, à entendre le message de la croix qui vous permettra d'obtenir le salut de votre âme. Car c'est ce que Dieu veut. Et lorsque Jean-Baptiste pose cette question à ces religieux qui n'ont pas dû apprécier, je vous le dis, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Nous sommes dans l'année de la grâce et vous pouvez tous dire « Béni soit Dieu ». Aujourd'hui, on fait partie, 27 octobre 2013, on est dans cette fameuse année de la grâce dont prophétise Ésaïe, « Je publierai une année de grâce ». Mais vous avez lu avec moi que Ésaïe prophétise également qu'il y aura un jour de colère ou un jour de vengeance. C'est un jour, c'est bien sûr, ça sera petit à côté, mais mes frères et sœurs, la colère, enfin, il n'y a pas besoin de grands prophètes pour vous l'expliquer. Vous voyez bien que la colère de Dieu vient sur la terre. Mais cette question, elle n'est pas adressée qu'aux juifs du temps de Jean-Baptiste. C'est trop facile de dire, ouais, c'était des hypocrites, c'était des personnes doubles, c'est ces pharisiens, c'est sadducéens. C'est vrai que Jésus a été très sévère envers ces gens, car quand même, c'est par le biais des pharisiens qu'ils ont crucifié Jésus. Ne l'oublions pas quand même. Sans vouloir leur jeter la pierre, parce que c'est quand même notre péché à nous qui a crucifié le Seigneur. Mais cette question, elle est adressée à tous les hommes. Tous les hommes, à tous les siècles, vos parents, vos grands-parents, s'ils allaient dans une église, ont entendu cette question, vos ancêtres ont entendu cette question, s'ils allaient dans une église digne de ce nom, ils ont entendu cette question, qui vous a appris à fuir la colère à venir? On prend le baptême, ils prenaient le baptême, tout le monde prenait le baptême, on l'a vu ça, et là, ça nous a brisé le cœur. Ah, tu as pris le baptême, ah ben je le prends avec toi, parce que je ne veux pas être tout seul, vous voyez, c'est le baptême à ce niveau-là, c'est du n'importe quoi. Le baptême, c'est un engagement. Et cette semaine, quand j'étais en train de prier, je pensais vraiment à pourquoi les cieux se sont ouverts quand Jésus a pris le baptême. Parce que ce baptême représente vraiment une mort à soi-même. C'est un véritable renoncement. Ma vie ne m'appartient plus. Le baptême, c'est pas youpi, je suis passé des ténèbres à la lumière, je suis sauvé, maintenant c'est bien, je suis dans le camp des bons et je fais ce qui me plaît. Non, le baptême, c'est véritablement l'engagement à mourir à soi-même, à dire « Seigneur, ce n'est plus ma volonté que je vais faire, c'est ta volonté ». C'est ça le baptême, je ne vais pas l'expliquer ce matin. Ce message, oui, ne vous fera pas sauter de joie. Et je sais que même dans certaines églises, ce message, des chrétiens, écoutez ce que je vais dire, c'est grave. Il y a des chrétiens qui sortiraient en écoutant ce que je vais dire. Pas des païens bien sûr, ça va de soi. Mais je sais qu'il y a même des chrétiens qui sortiraient avec ce que je vais vous dire. Alors s'il y en a qui sortent, j'en déduirai que vous avez un rendez-vous. Jude s'est senti obligé de dire certaines choses. Vous connaissez l'épître de Jude? Quand on voit cet épître, il est obligé de dire certaines choses. Mais moi, c'est pareil. Je ne l'écris pas, mais je vous le dis. C'est la même chose, je me sens obligé de vous dire cette exhortation, cette question, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Je sais très bien que des milliers de gens écouteront par le biais des radios chrétiennes cette prédication. Donc elle n'est pas adressée qu'aux chrétiens de Sainte-Agne. En tous les cas, si vous n'êtes pas encore sauvés, c'est certain que cette question est pour vous. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? À la lecture de ces trois textes, automatiquement, plusieurs questions s'imposent. Où en suis-je avec Dieu? Tous les chrétiens doivent pouvoir répondre, mais ce matin, moi le premier, où en suis-je avec Dieu? C'est une question qu'on peut poser. C'est un peu le but de la Sainte-Cène, de nous commémorer la mort du Seigneur, mais également notre mort à nous-mêmes pour vivre cette vie nouvelle. Est-ce que je suis sauvé ou non? Est-ce que vous êtes sauvé ou non? Est-ce que vous êtes converti ou non? Il y a des gens qui changent d'église, qui disent, voilà, j'étais catholique, je deviens évangélique, c'est différent, on m'a bien accueilli, c'est super sympa. On ne vient pas dans l'église parce que l'église est plus accueillante, on ne vient pas dans l'église parce que les gens sont gentils, on va dans une église parce qu'on veut obtenir le pardon de ses péchés. Et puis après, être un véritable chrétien. Est-ce que j'ai fait la paix avec Dieu ou non? Avez-vous fait la paix avec Dieu? Il y a des gens qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. Les chrétiens qui ont perdu la paix. Est-ce que ça peut arriver de perdre la paix? Ben oui, moi je l'ai perdu parce qu'on a fait une erreur, parce qu'on a commis un péché. Eh bien, il faut retrouver cette paix en demandant pardon au Seigneur. Tous les chrétiens ont perdu parfois la paix. Ça peut arriver, mais avez-vous la paix avec un P majuscule, cette paix d'avoir obtenu le pardon de vos péchés? Êtes-vous en Christ? Ou en dehors de sa grâce? Ne vous mettez pas dans l'idée, parce que vous allez dans une église chaque dimanche, que vous êtes véritablement converti. Est-ce que vous êtes sous la grâce? Ou est-ce que vous êtes sous la colère? Ce sont des choses qu'on peut poser après avoir lu ces trois textes. Êtes-vous béni? Ou êtes-vous maudit? On va reparler de ce mot. Maudit, c'est un mot terrible. Béni, c'est un mot merveilleux. Mais c'est quand même une question qu'il faut poser. C'est une question que nous adorons, nos enfants et tous ceux qui écouteront cette prédication, tous les perdus qui entendront cette prédication doivent répondre à cette question. Est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que vous êtes perdus? Est-ce que vous avez cherché refuge auprès de l'unique refuge qui est Jésus-Christ? On l'a chanté tout à l'heure. C'est beau de chanter celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Vous l'avez chanté tout à l'heure? Ben, vous êtes heureux si vous pouvez le chanter vraiment. Les questions, j'en ai posées. Êtes-vous proche ou éloigné de Dieu? Est-ce que parce qu'on est dans une église, on est proche de Dieu? Au ciel, on aura des surprises. Au ciel, on aura des surprises. Êtes-vous en dehors des promesses de l'Évangile? Qu'est-ce que vous en faites des promesses de l'Évangile? Ou est-ce que vous faites partie de ces chrétiens? Ouais, je ne comprends pas. Lui a fait cette promesse. Je ne comprends pas. Jean-Baptiste a posé une question sévère. Les questions que Dieu pose, si sévères soient-elles, ce n'est pas pour nous ennuyer. Les questions que Dieu nous pose, c'est pour nous aider à ne pas perdre de temps, peut-être. Parce qu'une question sévère, ça peut nous aider à gagner du temps. Vous le croyez ou vous ne croyez pas? Vous le croyez. La question, elle est là. Elle est là ce matin. Est-ce que vous êtes sous le poids de la colère de Dieu ou est-ce que vous êtes sous la bénédiction du Seigneur? Alors, on pourrait continuer les questions. Hier soir, quand je préparais cette réunion, je pensais à toutes les questions qu'on pourrait poser suite à la lecture de ces trois textes. Êtes-vous héritier de la bénédiction divine? Êtes-vous héritier de la grâce? Alors, les réponses, il ne faut pas qu'elles soient superficielles. Ben, je ne sais pas trop, je ne sais pas, peut-être, je suis sauvé. On a des gens comme ça. Est-ce que vous êtes sauvé? Je ne sais pas. Vous avez pris le baptême? Oui, mais je ne sais pas. Mais peut-être, si Dieu veut. Non, mais si Dieu veut me sauver. Vous voyez déjà l'égarement dans lequel un chrétien peut se trouver quand il en arrive à dire si Dieu veut me sauver, eh bien, il me sauvera. Moi, je fais de mon mieux. Je fais des œuvres de temps en temps. Le matin, j'essaie de faire une BA. Vous connaissez l'expression? Une bonne action. Pour essayer de me. Écoutez, si vous en êtes là, je pense que ça ne va pas. Il faut être honnête. Vous savez, s'il y a une chose que Dieu bénit, c'est l'honnêteté. Est-ce que vous savez que Dieu bénit les gens honnêtes, les gens vrais, les gens qui sont capables de dire oui, je veux ce matin que tu parles à mon cœur. Si vous n'êtes pas encore baptisé par immersion, si vous n'avez pas encore véritablement pris un engagement, cette prédication elle est pour vous. Mais je sais aussi, je le sais, vous voyez Delphine l'autre jour qui nous a dit au revoir, pour rappeler, si vous étiez là dimanche matin, elle nous a dit au revoir, c'est une jeune fille que j'ai suivie, etc. Vraiment j'ai suivi cette petite parce que quand elle est arrivée, elle était baptisée. Et au bout d'un mois, deux mois, elle m'a dit, mais monsieur Hugo, je suis dans la catastrophe. J'ai pris le baptême et je ne suis pas converti. Elle avait réalisé que le Seigneur soit béni. Voilà. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on a pris le baptême qu'on est passé par la repentance. Par contre, je sais que beaucoup de gens sont heureux ce matin. Et vous pouvez, beaucoup peuvent dire avec assurance, oui, je sais une chose. C'est que j'étais perdu et que je suis sauvé. Il y en a plusieurs qui peuvent le dire. Un peu plus quand même, rassurez-moi, ça me ferait quand même plaisir. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui peuvent me dire oh, « Oui, j'ai de l'assurance, j'étais perdu et je suis sauvé, j'étais un aveugle et maintenant je vois. » Il y en a un petit peu plus qui pourraient me rassurer quand même.
Oui.
Ouais, ça va bon. Non, mais quand même, mettez-vous à ma place. Qui peut dire « Oui, je sais que Jésus il est mort pour mes péchés, je le sais, c'est plus fort qu'autre chose, je le sais que le Seigneur Jésus, c'est Dieu qui est venu sur la terre, il est mort pour moi, il a versé son sang pour me purifier. » Si vous pouvez le dire, laissez-moi vous dire que vous êtes heureux, que cette prédication n'est pas tellement pour vous en vérité. Mais si vous faites partie de ces gens heureux, ben, bénissez le Seigneur, continuez à le servir, continuez à lui être agréable, appliquez-vous, honorez-le. Est-ce que c'est important d'honorer Dieu, de le respecter, de le servir? Est-ce que c'est important? Si, je le répète parce que moi ça me fait peur, mais vraiment peur en tant que pasteur. Je pense à tous les chrétiens qui ne font rien. Je vous le dis, mettez-vous à genoux et demandez au Seigneur qu'il vous montre ce que lui veut que vous fassiez. Faites-le, s'il vous plaît. Alors, on va lire un autre texte qui confirme justement la bénédiction de cette espérance et la malédiction également que Jésus a dû prendre sur lui pour nous sauver. Parce que c'est pas une affaire superficielle, ça. Le pardon de nos péchés, Jésus, il a vraiment souffert pour nous sauver. Il a pas juste une entorse, il a donné sa vie entière. Dans Galates, chapitre 3, c'est un texte qui nous permet de comprendre l'espérance qu'est la nôtre en tant que chrétien, et le désespoir de ceux qui ne le sont pas. Galates, chapitre 3, verset 10. Galates, chapitre 3, on peut lire du verset 10, on va lire jusqu'au verset 14. Ce sont des textes que les gens ne comprennent pas bien, l'épître aux Galates, l'épître aux Hébreux, l'épître aux Romains, le Lévitique, tout ça, c'est des livres que les gens ne lisent pas. Mais c'est des livres qui nous permettent de comprendre ces grandes vérités solennelles. Galates, chapitre 3, verset 10. « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » Regardez bien la suite. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Regardez bien la suite. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Ce sont des choses un peu compliquées, mais ça explique une chose, c'est qu'un chrétien, il réalise que la malédiction dont il aurait dû être l'objet, eh bien, elle a été placée sur Jésus. Est-ce que vous savez que Jésus a été maudit? Il a été fait malédiction. C'est la raison pour laquelle les Juifs ne croient pas que Jésus est le Messie, parce qu'ils partent du principe où le Sauveur du monde ne pouvait pas être maudit, puisqu'il est dit « maudit est celui qui est pendu au bois ». C'est un non-sens. Et comprenons-les, ne jugeons pas, ça se comprend. Ça tient debout par rapport à leur loi. Ça tient vraiment debout. Mais une chose est sûre, la malédiction, il fallait bien que quelqu'un la prenne. Et le Seigneur l'a pris. C'est pour ça que vous pouvez être heureux si vous savez ce matin que Jésus-Christ a pris la malédiction à votre place. Donc si vous êtes repenti, si vous êtes converti, si vous êtes passé par un véritable baptême, ça j'y tiens, parce qu'on baptise des gens, en veux-tu en voilà, et les gens ne sont pas convertis. Donc, vous avez répondu oui, certains, j'ai entendu, certains ne peuvent pas répondre oui, mais tant mieux, parce qu'après tout vous êtes là, et vous pouvez entendre ce que vous avez besoin d'entendre. Car si vous êtes étranger à la grâce divine, si vous répondez par la question, à la question, si vous répondez peut-être si à la question est-ce que vous êtes sauvé, je ne sais pas, j'en sais rien, cette prédication, elle est pour vous. Elle est pour vous. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi êtes-vous à l'église ce matin? Pourquoi cherchez-vous une église? Peut-être que vous êtes de passage et que vous dites, moi je cherche une église sympa. Est-ce que vous cherchez une église sympa avec un pasteur gentil? Est-ce que c'est ça que vous cherchez? Il y a des gens, c'est ce qu'ils cherchent. Ah, j'étais dans cette église. Oh, le pasteur, il est super sympa. Il est super gentil. On a bu le café. On arrive. Bon, il n'y a pas de honte à boire le café. Mais je pense qu'un pasteur, c'est quand même quelqu'un qui doit être plus que gentil. Et puis qu'il soit gentil ou pas gentil, ce n'est pas trop grave. Ce qui est important, c'est qu'il soit spirituel. Et que quand vous passerez devant Dieu, il vous est amené à la porte des cieux. Voilà ce que doit être un pasteur. Après, tant mieux s'il est sympa. Tant mieux. Mais je sais que c'est vrai. Il y a des gens, je le vois, monsieur Gros, je cherche une église. Dans mon église, il y a ceci ou il y a cela. Dans mon église, il n'y a pas de social. Et alors, je veux dire, est-ce qu'on est obligé de faire du social? Est-ce qu'on est obligé de faire du social dans une église? Non. Une église, ce n'est pas pour le social. Une église, c'est d'abord pour le salut des âmes. Mais après, c'est sûr, comme on l'a lu, que certaines choses découleront de cette communion avec Dieu. On n'a pas besoin d'une église gentille. Vous avez besoin d'un sauveur. Je vous le dis parce qu'il y a des gens qui ne vivent qu'au niveau des émotions, qu'au niveau de l'affectif, qu'au niveau de ce qui est sentimental. Ça fait qu'eux, ils ont besoin que de l'émotion, de l'émotif. Il en faut de l'émotion, mais on en a besoin. Heureusement qu'il y en a. Mais en vérité, lorsque nous parlons du salut des âmes, nous avons affaire à la spiritualité, à l'éternité des gens. Est-ce que vous avez ce sauveur? Est-ce que vous dites « Oui, Jésus est mon sauveur ». Peut-être que tout à l'heure on chantera « C'est le sauveur de mon âme ». Avec beaucoup de ferveur, et bien vous serez heureux si vous le chantez. Mais ce Seigneur Jésus, dans 2 mois à peu près, on va fêter la venue du Seigneur Jésus. Oh, les gens vont fêter Noël. C'est merveilleux, le foie gras et le sauterne et le tariquet et tout ça, c'est merveilleux. Oh, j'étais à l'église, on a entendu le Magnificat de Verdi. Moi, j'étais bouleversé. Mais quand vous parlez aux gens du salut de leur âme, et quand vous dites, mais vous savez, le petit Jésus, là, il n'est pas si petit que ça. Il est très grand. Et c'est lui qui est mort sur la croix. Ah, non, la croix ne m'en parlait pas. Vous voyez, les gens, ils sont dans l'émotion. Dans le sentimental. Et je vous le dis avec un peu d'humour, ce n'est pas fin de ma part, mais c'est pour mettre en avant la vérité. C'est que les gens, ils ne veulent pas de la véritable lumière. Ils veulent bien des artifices, mais ils ne veulent pas de la véritable lumière. Et vous devez pouvoir répondre. Vous qui n'êtes pas baptisé, vous qui êtes là et qui ne savez pas trop si votre baptême vous a fait quelque chose, vous devez pouvoir répondre, mais qu'est-ce que je fais de cette parole? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est peut-être le dernier jour où vous entendez un appel. Oui ou non? Est-ce que ça peut arriver? Demain, je vais prêcher à l'enterrement de M. Régnier qui est décédé à l'église des Minimes. Il doit y avoir 200 ou 300 inconvertis. Qu'on le veuille ou non, parmi cette foule d'inconvertis, il y aura des gens qui entendront l'appel de Jésus pour la dernière fois de leur vie. Est-ce que c'est du chantage? Est-ce que c'est pas bien de dire ça? Ou est-ce que c'est la stricte réalité? Qu'il y a des gens qui entendront la prédication de la croix une seule fois dans leur vie et qu'ils entendront peut-être ce que j'ai à leur dire demain, peut-être qu'une seule fois. Vous avez vraiment le privilège de pouvoir l'entendre régulièrement. Oui, il faut demander au Seigneur des oreilles sensibles. On a chanté « Ouvrez, ouvrez vos cœurs ». C'est un très, très, très beau cantique. Ouvrez, ouvrez vos cœurs à l'appel de la grâce. Est-ce que c'est peut-être pas par là qu'il faudrait commencer et dire « Mais Seigneur, mais ouvre mon cœur. Ouvre mes oreilles, papa, les oreilles physiques, mais les oreilles de mon cœur. Ouvre mes oreilles, mais ouvre que mon esprit, que ma conscience soit véritablement touchée par le Seigneur. » Est-ce que ça peut être une de vos prières, ça? Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, mais où touche mon cœur? Est-ce que c'est possible? Le jour de la Pentecôte, ils eurent le cœur vivement touché. Oui, qu'est-ce que vous avez fait de ces paroles? Est-ce que vous dites, ouais, c'est pour les pharisiens, les hypocrites? Ou est-ce que vous pouvez dire, mais quelle est ma véritable piété?
Est-ce que je suis conscient de la colère à venir? Oh non, on ne parle pas de la colère, il y a assez, ça craint assez. Entendons autre chose dans les églises. Et il y a beaucoup de pasteurs qui vont se faire piéger par la donne, pour la simple et unique raison que comme les choses vont mal, ils vont donner de l'affectif dans les églises à la place de leur donner du spirituel. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, ça va être le gros piège dans lequel plein de pasteurs vont tomber, à savoir que comme ça va tellement mal dans le monde, il ne faut pas prêcher des choses sur la colère de Dieu. Les gens, ils n'ont pas besoin d'entendre ça. Eh bien, moi, je vous dis que si. Qui que nous soyons, nous avons besoin d'entendre toute la vérité. Toute la vérité. Nous avons besoin d'entendre parler de la grâce. Nous avons besoin d'entendre parler de la colère. De toute façon, je vais vous dire, Dieu ne bénit pas si on prêche à moitié, si on enlève, si on retranche. Dieu bénit toute la vérité. Vous entendez? Et même si vous êtes fatigué, même si vous êtes mal, si vous êtes déprimé, ça peut arriver, ne vous inquiétez pas, vous avez besoin d'entendre cette question. Qu'avez-vous fait de la colère à venir? Parce qu'elle vient, la colère. Peut-être vous dites, mais non, Dieu est tellement bon. Mais vous savez, moi je sais, Dieu est plein de grâce. Monsieur Gault, vous exagérez, comme je l'entends tant de fois. Monsieur Gault, l'autre jour, j'ai reçu un mail. Vous êtes plus sévère que les prophètes de l'Ancien Testament. Le gars, il a mal lu les prophètes de l'Ancien Testament. Je pense que le gars, il a vraiment pas bien lu. Je pense pas être plus sévère. Moi, je prêche la vérité. Et si vous n'avez pas fui la colère à venir, ce matin, c'est le moment de vous en préoccuper. Les ados, il y a des ados parmi nous. À côté, il y a des adolescents. Mais vous allez ne pas vous en préoccuper parce que votre pasteur, votre curé, je ne sais pas, vos parents, vos frères et sœurs rendent un mauvais témoignage. C'est ça qui va vous autoriser à ne pas vous convertir et à ne pas vous repentir. Bien sûr, quand on lit la parole, rien que la lecture des commandements. Hier soir, je méditais les 10 commandements. Je pensais à cette prédication. Qu'est-ce qu'on a fait de la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait des 10 commandements? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever ici et dire, oui, moi, j'ai respecté tous les commandements? Allez-y, on va avoir plein de compassion pour vous. Il n'y a personne. Moi, le premier, personne n'a pu respecter. Vous commencez à lire le premier, le deuxième, vous dites, bon, c'est bon. C'est vrai ou c'est pas vrai? Soyons honnêtes. Nous lisons que les 10 commandements et nous nous sentons tous coupables. Nous disons non, c'est clair. On les lit, mais c'est pas la peine. Mais ça suffit, avec un cœur ouvert, en lisant les 10 commandements, à reconnaître qu'on a tous désobéi à Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tous, on a désobéi. Donc, par conséquent, suite à ce qu'on vient de lire, la colère de Dieu repose sur nous. Alors quelqu'un dira, parce que ça, on a toujours des spécialistes, oui, mais moi, vous savez, je ne suis pas quand même comme ces gens. Il y a des gens beaucoup pires que moi. Je ne suis pas un criminel. Il y a des millions de gens qui sont pires que moi. Moi, j'ai pas trop menti. J'ai pas trop volé. Je ne suis pas un mauvais bourreau. Vous savez, quand même, je suis peut-être pas si mal que ça. Est-ce que ça vous dispense de vous repentir, parce qu'on entend ça. Il y a des gens qui disent, oh, mais moi, je n'ai pas volé. Une fois, il y a un pasteur que je connais bien, c'est M. Santana, qui posait la question dans une église, est-ce quelqu'un qui a jamais menti? Et il y a une femme qui a levé la main. Et lui, il n'a pas été pris de court, il a dit, bien, écoutez, si c'est le premier mensonge que vous faites, c'est pas grave. Mais je crois qu'il a mis répondu, mais une chose est sûre, tout le monde, nous sommes tous coupables. Mais si je pense que la sœur, peut-être elle avait mal compris la question. La spiritualité, c'est une affaire sérieuse. La spiritualité, c'est pas l'affaire de l'autre, c'est mon affaire. Le salut, c'est une affaire personnelle. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est quelque chose entre Dieu et vous. Alors c'est sûr qu'on peut regarder les autres et dire oui, ils sont plus coupables, ceci, cela, ils sont plus mauvais. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont vraiment pires que nous? Allez, soyons, ça va nous faire du bien de le dire. Allez, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont pires? Mais bien sûr que oui. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas vrai? Non? Bon, il y a des gens qui sont pires que nous. Mais quand même, quand on est droit devant Dieu, on ne regarde pas les autres. On ne regarde pas les autres, on ne dit pas, ouais, celui-là, il a celui-là. Comme on le dit, oh, celui-là, vous savez, il a besoin de Jésus. Hein. Celui-là, il a besoin du salut. C'est parce que vous n'en avez pas besoin. Mais on me le dit souvent. Hein. Il faut prier pour lui, parce que lui, il a besoin du salut. Vous hein. Voyez? Comme quoi, s'il y avait des personnes qui, par leur moralité, n'avaient pas besoin du Seigneur. Mais ce sont des questions sérieuses. Je sais que dans quelques instants, on va prendre la Sainte-Seine, que les ados qui ne sont pas encore convertis, parce qu'il y a beaucoup de nos adolescents qui ne sont pas encore convertis, beaucoup de personnes nouvelles qui découvrent l'Évangile, et vous avez droit à donner votre cœur au Seigneur. C'est votre devoir d'ailleurs. Mais si vous n'êtes pas avec Christ, si vous n'êtes pas avec Christ, où êtes-vous? Vous êtes sous le coup de la colère de Dieu. Vous pouvez le calculer comme vous voulez. Si vous êtes en crise, quels que soient vos problèmes, parce qu'on, est-ce qu'on peut avoir des problèmes quand on est chrétien? Mais bien sûr. Quelqu'un me disait un jour, mais cette personne, elle est décédée. Est-ce qu'elle est allée au ciel? Je dis oui. Elle avait accepté Jésus-Christ, vraiment accepté, comme sauveur et comme Seigneur. Elle croyait que le sang du Christ l'avait purifié. Après, c'est sûr qu'il y a des hauts débats. On ne perd pas le salut comme ça, il ne faut pas non plus. Vous comprenez bien. Mais ce sont des choses sérieuses. Ce sont des choses solennelles. Vous voyez, pour ne pas avoir prêché la colère divine, il y a plein de chrétiens qui se sont relâchés et qui ont dit, de toute façon, on est tous sauvés, Dieu va bénir, on va bientôt tous pouvoir chanter la chanson de Paul Maref, on ira tous au paradis. Moi, je peux vous dire, on en prend le chemin dans nos églises. On en prend le chemin. Ça vous fait peut-être sourire, mais moi, je vous dis que c'est exactement ce qui est en train de se passer. On essaie de faire plaisir aux gens pour gagner du monde. Si on gagne du monde, on aura davantage de dîmes, etc. Tout ça, c'est des calculs diaboliques. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'enfer même. Ce sont des vérités solennelles. Je ne sais pas où vous en êtes. Peut-être vous êtes tout le temps en train de chercher des excuses. Vous illusionnez. Il y a plein de gens moi, qui me disent, mais vous savez l'éternité. Moi, vous savez, je ne sais rien. Vous savez, j'y crois pas. Vous avez beau vous appliquer à prêcher. Moi, tout ça, je m'en fiche. Moi, ça me fait rire. On l'entend, ça. Demain, je m'attends, ça m'est égal, mais vraiment, je peux vous dire que je ne suis pas là. Je m'attends à ce que des gens, quand je vais prêcher, le message que je dois prêcher, laissez-moi vous dire que je sais qu'il y a des gens qui risquent de rire. Peut-être pas tant que ça, certains. Mais mes frères et sœurs, ne riez pas des choses spirituelles. Riez de la politique ou quoi que ce soit, pas non plus intelligent, mais ce n'est pas grave, ça ne vous perdra pas. On peut rire de certaines choses qui se passent au niveau de la société, il y a des choses qui ont été dites par des ministres, ça fait rire. Mais ne riez pas des choses spirituelles. Ne riez pas de ce que je suis en train de vous apporter. Les adolescents, ne dites pas, moi, quand j'aurai 18 ans, je ne viendrai plus à l'église. Ne dites pas ces choses. Ce matin, écoutez la voix du Seigneur qui vous demande de réfléchir à cette question qui vous a appris à fuir la colère à venir. Oui, peut-être que vous préféreriez un sermon sur l'amour. J'aimerais faire un sondage, je ne vais pas le faire, mais enfin, à moitié. Est-ce que vous préférez que des sermons sur l'amour? Continuellement, on peut le faire, il n'y a que l'embarras du choix. Ou est-ce que de temps en temps, il ne faut pas quand même faire des prédications sur la sévérité de Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez que des sermons sur l'amour?
Non.
Ben, c'est bien. On ne peut pas faire ces choses-là. On ne peut pas parler que de la grâce, que du pardon, que de la bonté de Dieu, que du paradis. On ne peut pas en parler. Il faut, si on parle du paradis, il faut aussi parler de l'enfer. C'est quelque chose de très important. Alors, vous comprenez le sens de mon message. On est tous coupables, mais Jésus a été fait malédiction pour qu'on ne soit pas maudit. Mais vous avez vu avec moi dans Matthieu 25, c'est quand même Jésus qui parle. Le grand Jésus, pas le petit, c'est le grand Seigneur du ciel et de la terre qui parle. Et il y a deux paroles, ça vaut la peine de les reprendre s'il vous plaît. Il y a deux paroles qui vont être dites de toute façon, que ce soit bien clair, nous entendrons ou l'une ou l'autre, tous. Matthieu 25, où nous entendrons, au verset 34, c'est quelque chose, c'est solennel, c'est la vérité, c'est peut-être comme ça, non, c'est Jésus, c'est la vérité avec un grand V. Matthieu 25, 34, alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Voilà, ou alors ailleurs c'est écrit, par exemple, si vous venez juste avant, on le voit au verset 21 du chapitre 25, vous voyez, c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle un peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Voilà le genre de choses, de paroles, pardon, que nous allons entendre si nous avons marché avec le Seigneur Jésus. C'est incontournable. C'est comme ça que ça se passera. Là aussi, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Voilà, vous entendrez, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle, entre mon fils, entre dans la joie de ton maître. Oui, viens, toi qui es béni de mon Père. Est-ce que vous avez envie d'entendre ça? Je l'espère. Par contre, il y en a qui entendront, au verset 41, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit. » Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de cette parole. Est-ce qu'il faut le mettre en titre de la prédication ? « Retirez-vous de moi, maudit. » Hélas, j'ai peur que beaucoup de gens entendent cela. « Retirez-vous de moi, maudit. » Maudit, c'est un mot, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce mot. Vous aimez ce mot ? Déjà, dans la bouche d'un homme, ce n'est pas fameux. Quand on entend quelqu'un qui dit celui-là, je le maudis. Vous l'avez déjà entendu, ça? Bon. Dans la bouche d'un homme, ça fait pas bien. Mais dans la bouche du Dieu du ciel et de la terre, qui sera obligé de dire à des hommes et des femmes qui n'auront pas fui la colère à venir, retire-toi de moi. Ça fait pitié parce que tout le long de notre vie, on aura entendu « Venez à moi, venez à moi ». Vous savez que vous connaissez la parole de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés ». Et ça fait pitié de savoir que le même qui a dit « Venez à moi » sera être obligé de dire « Retirez-vous de moi, maudit ». C'est ce qui va arriver pour tous ceux qui ne prennent pas au sérieux la parole de Dieu, pour tous ceux qui ne prennent pas au sérieux l'enseignement que je suis en train d'apporter. Quelle malédiction, quelle catastrophe d'être maudit de Dieu. Vous n'êtes pas d'accord? Et c'est pour ça que vous ne devez pas rire avec ces choses. Et moi, vous savez, ce matin, j'étais un peu embrouillé hier. Mais comme il y a eu le décès de M. Régnier, je pensais à la prédication aussi que je dois porter demain après-midi. Je pense que mon esprit est un petit peu mêlé par rapport à deux prédications, même trois. Et je sais que je dois faire attention à ne pas m'embrouiller. Mais une chose est sûre, chacun de nous doit prendre conscience de ce qui est écrit. Quelle parole? C'est Jésus qui parle. Retirez-vous de moi, maudit. Vous comprenez que c'est solennel. Parce que là, on est vivant. On a combien d'années devant nous? Tiens, combien d'années me reste à vivre? Combien de jours, de mois, d'années, de décennies? Combien de temps il me reste à vivre? Hein? On ne sait pas. Personne ne le sait. C'est peut-être les plus jeunes qui mourront avant les plus vieux. Est-ce que ça peut arriver, ça? Est-ce que c'est arrivé? Il y a des gens, vous savez, je vais mourir. Je connais quelqu'un, ça fait 30 ans qu'elle dit ça. Je vais bientôt mourir, je vais bientôt mourir. Bon, elle fait ça, elle dit ça pour se faire plaindre. Mais je veux dire, je vais bientôt mourir. Mais ce n'est pas parce que nous, on pense qu'on va mourir, parce que si, parce que là, il y a des gens qui sont malades depuis 30 ans, ils sont toujours vivants. Il y a des gens qui sont en bonne santé, et ce soir, eh bien, ils seront dans la tombe. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous savez que c'est vrai. Mais combien de temps il nous reste à vivre? Vous savez, je pensais, en préparant cette prédication, je pensais à comment il s'appelle, Akab. Akab, un jour, il a convoqué avec tout son staff. Vous le lirez dans Un Roi 22, si je ne me trompe pas. Ne le cherchez pas. Il convoque tout son staff, tous ses officiers, tous ses prophètes. Des faux prophètes. Et voilà. Et puis, il demande à Michée de dire ce qui va se passer. Et Michée, bien sûr, lui, il va dire la vérité. C'est pas beau, bien sûr, mais il va dire la vérité. Et tout le monde va rigoler. Parce que... voilà, il y a même Sédécias qui va y mettre une gifle, qui va se moquer de lui. Et par où l'Esprit de l'Éternel est parti pour te parler? Il a pris le nom du Seigneur en vain et tout le monde rigolait bien. Mais quand vous lisez ce chapitre, et quand vous lisez comment Akab a terminé, quand une flèche ennemie lui a percé la cuirasse, il riait moins. Et c'est vrai que tant qu'on est vivant, avec les copains et avec les potes, on peut rigoler. Surtout des choses de Dieu quand les gens sont inconvertis. Mais le jour où notre dernière heure a sonné, mais fiez-vous qu'on rit moins. C'est une grâce d'avoir du temps pour se repentir. Vous savez, avant-hier, je priais. Et je pensais à ce verset sur lequel j'ai prêché il y a quelques semaines, quand Dieu dit, je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Vous connaissez ce verset? J'étais à genoux dans mon bureau, j'étais en train de prier, de me régaler. Et je pensais à ce verset. Conseil d'acheter de l'or. Je sais que le temps de qualité dans la présence de Dieu ressemble à cet or qui est sous le feu, sous le fourneau, et qui fond et qui permet à notre vie spirituelle d'être affranchie, etc. Et afin que tu deviennes riche. Et je me disais, mais chaque fois qu'on prie, je pense que c'est une pensée de Dieu, mais chaque fois qu'on prie, on ne se rend pas compte la richesse que ça peut représenter. Vous connaissez la parabole de Lazare et du mauvais riche. Ce mauvais riche qui aurait certainement donné tous ses euros pour revenir une minute à notre place. Vous ne croyez pas? Est-ce que vous ne croyez pas que tous les riches, les moins riches aussi, mais les riches à plus forte raison, n'auraient pas donné sur la terre tous leurs milliards pour avoir une seule minute à s'agenouiller devant Dieu et dire au Seigneur Jésus, comme le brigand sur la croix, « Souviens-toi de moi ». Est-ce que vous pensez qu'il était riche à ce moment-là, le brigand, quand il disait « Souviens-toi de moi » Un peu. Et voyez les valeurs. Nous, on a des valeurs, la richesse, tout ça. Bon, tant mieux si Dieu nous a bénis matériellement. Mais la vraie richesse, c'est la qualité que l'on a de pouvoir continuellement se tenir devant Dieu. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais laissez-moi vous dire que c'est vrai. En tous les cas, il y a des mots terribles. Jésus les a utilisés, comme Jean-Baptiste aussi, non pas pour nous faire peur, mais pour quand même nous faire réfléchir. Si les mots avaient été tronqués, j'ai peur que les nouvelles versions soient de plus en plus souples et qu'ils ne permettent pas aux chrétiens et aux païens de réfléchir. De toute façon, dans quelques années, je reviens à mon sujet, dans quelques années, il nous faudra tous mourir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui ou non? Ou vous pensez passer à quoi que? Quoique, la Bible parle de l'enlèvement de l'Église, et la Bible dit que beaucoup, les chrétiens, ne mourront pas. Ils seront enlevés. Alors ça va être bien. Vous ne croyez pas? Ça sera bien. Mais enfin, on peut mourir avant. Oui ou non? Ça peut arriver. Donc, il faut réfléchir et se dire, mais qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais passer devant le tribunal de Christ? Est-ce que Jésus sera mon avocat? Ou est-ce que Jésus sera mon juge? C'est ce qui va se passer. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur, devant Dieu, Jésus-Christ sera votre avocat. Et vous serez bien défendu. Si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme sauveur, Jésus-Christ sera votre juge. Et vous serez jugé. Il n'y aura pas de passe-droit comme on voit aujourd'hui. Les gars qui ont du pognon, qui arrivent. Vous avez vu ce qui s'est passé en France. Un fameux gars qui a failli être président. Comment, avec quelques millions d'euros, il a évité la prison. Ça n'arrivera pas dans le ciel. Ça n'arrivera pas. Le juge sera vraiment le juge de tous. Et la Bible dit qu'il a fixé un jour pour le jugement. C'est pour ça que ces choses-là doivent être sérieuses. Ne riez pas et ne plaisantez pas avec ces choses. Prenez-les toutes au sérieux. Les contemporains de Noé riaient. Lorsque Noé construisait son arche, tout le monde riait, tout le monde se moquait. La Bible dit que tout le monde se moquait. Les gens, ils priaient. À quoi ça servait? À rien. Moi, je suis étonné que c'est dans ce chapitre où il est écrit, c'est là qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Je vais vous dire, ça ne leur a pas servi à grand-chose. C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui prient, ça ne sert à rien, parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu, parce qu'ils se moquent des choses de Dieu. Mais si vous écoutez cette parole ce matin, soyez sérieux, soyez solennel, ayez le courage de dire, mais c'est vrai, un jour je vais mourir, il n'y aura pas mes copains, et même si mes copains se convertissent tous, moi aussi il faut que je passe par la repentance. Est-ce que vous avez envie d'entendre « Retirez-vous de moi, maudit » ou est-ce que vous avez envie d'entendre « Venez, vous qui êtes bénis ». Il vous faut répondre, c'est à vous de répondre. Vous répondez à haute voix, c'est pas le moment. Mais dans votre cœur, vous devez dire, je veux dire « Oui, je veux que Jésus me bénisse sur la terre et dans les cieux ». Moi, je ne veux pas que la porte du ciel me soit fermée, je n'ai pas envie de taper à la porte. Vous savez ces prophéties, vous connaissez. Ce sont des choses sérieuses. Alors, vous savez, dans une prédication comme celle-ci, bon, quelqu'un qui est mal luné, qui est pas du tout pieux, il va dire, ouais, c'est sévère, et c'est l'opium du peuple, vous savez, tout ce qu'on a entendu. Bon. Mais quelqu'un qui est spirituel, quand il entend une prédication comme ça, il va dire, il y a plus d'amour dans une prédication comme ça que dans un sermon où on parlerait de paix, de paix, de paix, de paix, alors qu'il n'y a pas la paix. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il y a des gens qui prophétisent. Et nous avons la preuve qu'à la fin des temps, il y aura plein de faux prophètes qui prophétiseront des choses fausses pour amuser la galerie, excusez-moi l'expression. Mais on n'est pas là pour s'amuser. On est là pour se préparer à rencontrer Dieu. Et je voudrais ce matin que vous puissiez prendre la Sainte Cène avec un immense plaisir de dire, mais c'est vrai, j'annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mais dans la Sainte Cène aussi, je pense à mon baptême, je pense également à ma mort à moi, à ma mort spirituelle, dans le sens où je dois mourir en Christ pour avoir cette vie de Christ. C'est un autre sujet, j'en conviens. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut sincèrement se repentir? On va fermer les yeux, on va tous se recueillir, tous à côté. Et vous qui écouterez cette prédication par le biais d'Internet ou par le biais d'un CD, prenez du temps pour vous recueillir. Prenez du temps pour réfléchir à ce que Jésus a fait au calvaire. Il a été crucifié. Il est mort. Il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Ce sont des choses sérieuses. Nous étions tous voués à la condamnation et à la malédiction. Et vous le savez, c'est lui qui s'en est chargé et qui nous a délivrés. Si donc Dieu a maudit Christ, je ne sais pas si vous vous rendez compte, à la place d'un homme, si la malédiction de Dieu a été sur Christ, vous qui acceptez Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être maudit. Voilà la conclusion. Vous ne pouvez pas. Est-ce que vous vous rendez compte que vous pouvez être béni? Vous pouvez ce matin dire, mais je peux être béni. Et ce matin, Seigneur, tu me parles. Les adolescents, vous qui vous moquez, vous qui écoutez cette prédication peut-être et qui riez, Dieu vous aime. Vous pouvez rire, ce n'est pas parce que vous riez de toute façon que Dieu ne vous aime pas. Dieu, il vous aime. Et il veut vous sauver sur la terre.
C'est sur la terre qu'on obtient le pardon des péchés. Je ne vois pas pourquoi Jésus serait mort si on pouvait obtenir le pardon des péchés après la terre. Alors, peut-être que vous n'êtes pas apaisé. Rappelez-vous cet homme qui dit « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un homme pécheur. Est-ce que vous voulez que Dieu vous apaise ?» Mais dites-lui, Seigneur, pardon, je veux te donner ma vie. Je veux entendre, viens, toi qui es béni du Père. Oui, si Jésus a pris la malédiction, vous serez béni. Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi.